Théologie 101 Christologie, parabole, repensons l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est l'une des paraboles les plus connues et les plus populaires de Jésus. Qui n'aime pas une bonne histoire de rédemption? C'est une belle image du père courant quand il voit son fils capricieux rentrer à la maison. Nous aimons voir la restauration du fils prodigue, et cela reflète le cœur de notre Dieu. J'espère que nous continuerons à prêcher ces points. Ces dernières années, j'ai entendu de plus en plus de gens souligner que cette histoire concernait en réalité la colère du frère aîné. Il refuse d'aller à la fête. L'extravagance de la grâce lui échappe. Et beaucoup y voient un réquisitoire contre les scribes et les pharisiens. Après tout, ces paraboles sont une réponse à leur insensibilité envers la rédemption. Je pense que nous devrions continuer à souligner cela comme faisant partie du sens. Mais il se passe quelque chose dans cette parabole que je pense que nous oublions souvent. Cependant, vous devrez rester avec moi pour y arriver. Quel est le contexte de cette parabole? Le début de Luc 15 est une clé pour comprendre toutes les paraboles. Les publicains et les pécheurs se rapprochent de Jésus. Les pharisiens et les scribes ne célèbrent pas cela, ils se plaignent. Ils sont contrariés que le cœur de Jésus reçoive les pécheurs et mange avec eux. Jésus répond à cette accusation en donnant quelques paraboles. Tout d'abord, il dresse le tableau familier d'un berger partant à la recherche d'une brebis perdue. C'est ce que fait un bon berger. Il s'en prend aux brisés et aux rebelles pour les ramener au bercail. Quand il trouve cette brebis et la ramène, il devrait y avoir de la joie. Pourquoi les pharisiens ne se réjouissent-ils pas? Il leur donne ensuite une autre parabole sur une pièce de monnaie perdue. Une dame possède 10 pièces, en perd une puis retourne la maison pour la retrouver. Quand elle le trouve, elle fait la fête. Quand quelque chose de perdu est retrouvé, nous célébrons. Pourquoi ne ferions-nous pas cela lorsque les pécheurs se repentent? Pourquoi les pharisiens ne se réjouissent-ils pas? L'histoire du prodigue est une histoire longue mais elle suit le même thème de base. L'enfant prodigue revient, le père fait la fête, mais pas le frère aîné. Pourquoi ne ferait-il pas la fête? Ne devrait-il pas se réjouir aux côtés du père du retour de ce précieux membre de la famille? Pourquoi les pharisiens ne se réjouissent-ils pas? Regardons d'un peu plus près le cœur du frère aîné. Le cœur du frère aîné, mettez-vous un instant à la place des pharisiens. Vous avez travaillé dur pour plaire à Dieu et rendre votre pays meilleur. Vous avez fait ce que vous pouviez pour vivre correctement, pour suivre les lois et les commandements de Dieu. Vous faites cela depuis que vous êtes enfant et, pour la plupart, vous avez réussi. Quand les gens vous regardent, ils pensent à quelqu'un de juste, qui a ses affaires ensemble. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous avez aussi un peu de déception. Il y a encore tellement d'immoralité dans le pays. Beaucoup de gens ne suivent pas le chemin de Dieu. Ils se vendent à la culture qui vous entoure. Ils piétinent par tous les 10 commandements. Et c'est, croyez-vous fermement, la raison pour laquelle vous êtes sous la domination romaine. Vous n'êtes pas libre dans votre propre pays, vous payez toujours des impôts exorbitants et les promesses de Dieu ne semblent pas se réaliser, principalement à cause des collecteurs d'impôts et des pécheurs qui vous entourent. Ils ne sont pas fidèles et c'est pourquoi vous ne vivez pas dans la bénédiction de Dieu. Et c'est à cause de ces collecteurs d'impôts et de ces pécheurs que ce type de Jésus vous juge maintenant. C'est aussi pourquoi vous ne croyez pas qu'il est le Messie. Parce que quand le Messie viendra, il va tout arranger. Il frappera les Romains dans les dents. Il chassera de notre royaume tous ces pécheurs injustes, purgeant le pays de tout ce mal. Mais ce fils de charpentier ne fait pas ça. Il mange avec eux. Ici, vous pouvez ajouter une vingtaine de points d'exclamation, de la vapeur de colère sortant des oreilles et le roulement des yeux dédaigneux d'une fille de 8e année quand je fais une blague à Peppa. Le Messie nous récompensera, pensez-vous. Jésus renverse tout cela. Il mange avec les pécheurs et les publicains et jette de l'ombre sur les chefs religieux. Il passe plus de temps avec les exclus qu'avec les aisés de la synagogue. Il fait partie du problème. Il reçoit les pécheurs. Et ce mot pour reçoit est un mot chaleureux et accueillant. Ce n'est pas que Jésus se bouche le nez et tolère la saleté. Il déroule le tapis rouge, célèbre leur présence, tue le veau gras. Il les apprécie en tant que personne et est heureux d'être en leur présence, comme si la fête ne pouvait pas commencer avant leur arrivée. C'en est trop pour les chefs religieux de l'époque de Jésus. La grâce vous met-elle en colère? Remarquez dans cette histoire où Jésus les place. Ils sont sur le terrain. Ils travaillent. Il fait ce que fait un bon fils, travailler pour la famille. Il a sur lui la saleté du travail acharné, pas la misère et la puanteur des païens. Il s'approche de la maison et entend quelque chose d'inconnu, de la musique et de la danse. C'est une fête. Maintenant, je suppose que le frère aîné n'est pas naturellement opposé aux fêtes. Il est simplement important que la fête se déroule correctement et pour les bonnes personnes. Jésus a déjà dit que ses chefs religieux sont tout à fait d'accord avec le fait d'être le centre des fêtes et les invités d'honneur. Il faut se demander si le frère aîné, tout comme maman, suppose que la fête sera en son honneur. Lorsqu'il se rapproche de la maison, il voit son père sourire jusqu'aux oreilles. Il ne peut plus respirer, à cause de la course et de l'excitation. Votre frère, ah ! Les larmes commencent à couler, revient à la maison. Lorsqu'il dit chez lui, cela s'accompagne d'un immense soupir de soulagement, comme si des années d'angoisse lui avaient été enlevées. Les perdus ont été retrouvés. Le père fait un câlin de fête à son fils aîné, mais se heurte à la froideur. Il ne peut pas se réjouir. Il est offensé. Ce câlin, ce retour du frère coûte cher. Pensez-y un instant. Que signifie accepter le retour du frère? Qu'est-ce que cela signifie pour lui d'être désormais traité comme un fils plutôt que comme un serviteur? Un héritage aurait été divisé en tiers si vous aviez deux fils. Le fils aîné reçoit deux parts et le plus jeune, un part. Disons que le papa de l'histoire a 1 200 $. Cela signifie que le grand frère reçoit 800 $ et le petit frère 400 $. Papa encaisse et le petit frère gaspille ses 400 $. Il ne reste plus à la famille que 800 $ pour l'héritage. C'est bien pour le frère aîné. Son jeune frère peut être stupide et subir les conséquences de sa rébellion. Mais s'il est maintenant accepté de nouveau dans la famille, ses 800 $ seront à nouveau divisés en tiers. Vos 800 $ ne représentent plus que 533 $. Vous payez les conséquences de son péché. Et ce n'est pas bien, protesteriez-vous. Il refuse d'aller à la fête. Et c'est une grande partie du point de vue de Jésus. Les scribes et les pharisiens risquent de s'exclure du royaume. Le père supplie le frère aîné de venir faire la fête, de célébrer la grâce. Le frère aîné ne bouge pas. Il poursuit sa protestation. Il veut savoir pourquoi le père n'a pas célébré son obéissance. Il n'a pas reçu de chevreau, n'a pas eu la fête, n'a pas été célébré. Mais celui qui a fait du mal à la famille en dilapidant ses finances et en les dépensant pour les prostituées est désormais célébré. La réponse du père nous ramène aux deux premiers versets de Luc 15. Il convient de célébrer lorsque ce qui était perdu est retrouvé. Le ciel se réjouit lorsque les perdus sont retrouvés. La grâce va-t-elle vous mettre en colère? Allez-vous renoncer à votre propre grâce parce que vous ne pouvez pas supporter cela pour votre frère? C'est l'une des principales questions qui planent sur ce passage. Mais il y a une autre question, et c'est celle qui, je pense, nous échappe souvent. Le problème de l'histoire qui nous manque souvent, il existe de nombreux points communs entre les trois paraboles. Mais il y a une grande différence. Une brebis est perdue et le berger part à sa recherche. Il la trouve et la ramène. La pièce est perdue et la dame la cherche. Elle la trouve et appelle tout le monde pour célébrer. Le fils prodigue s'en va, il est perdu. Et personne ne le poursuit. Tim Keller souligne ce point dans son livre de Prodigal God. Il dit, au moment où nous arrivons au troisième étage et où nous entendons parler du sort du fils perdu, nous sommes tout à fait prêts à nous attendre à ce que quelqu'un se mette à sa recherche. Personne ne le fait. C'est surprenant, et Jésus le voulait vraiment. En plaçant les trois paraboles si étroitement ensemble, il invite les auditeurs réfléchis à se demander, eh bien, qui aurait dû sortir et chercher le fils perdu? Le frère aîné aurait dû être le chercheur. Et je pense que c'est aussi un point que Jésus fait valoir aux chefs religieux. On raconte l'histoire de Martin Niemöller, un pasteur luthérien emprisonné dans l'Allemagne nazie. Un jour, un aumônier de la prison est venu demander à Niemöller pourquoi il était en prison. À cela, il répondit, « Eh, frère, pourquoi n'es-tu pas en prison ?» Jésus dit quelque chose de similaire à cette parabole. Il le condamne pour avoir mangé avec des pécheurs et des publicains et Jésus leur dit, « Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Pourquoi ne vas-tu pas les atteindre? Pourquoi évitez-vous les prodigues, travaillant avec colère sur le terrain en pensant que d'une manière ou d'une autre, cela méritera une faveur? Allez dans un autre domaine. Là-bas, la récolte est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Ils sont trop occupés à obéir pour réellement obéir. » Le cœur de Jésus, heureusement, Jésus est fidèle là où nous ne le sommes pas. Nous ressemblons beaucoup trop à Jonas, en colère contre la grâce de Dieu. Travailler dans un domaine sûr pour prouver d'une manière ou d'une autre notre dévouement, tout en refusant de faire ce qui est vraiment dans le cœur du Père. Ou bien nous sommes, comme Jonas, assis sur la colline voisine, observant et attendant la destruction. Cette parabole nous appelle à la joie du Père, la joie de voir les perdus retrouvés. C'est le cœur de Jésus. Le rejoignons-nous là où se trouve son cœur? Soit dit en passant, Jésus a joué le rôle du frère aîné. Mais il fait ce que le frère aîné aurait dû faire. Il est fidèle au cœur du Père. Et c'est grâce à cela que chacun d'entre nous a la rédemption. Il a porté dans son corps le prix de notre rébellion. Il en a payé le prix. Et il ne l'a pas fait avec colère mais avec joie. Il est excité de voir le Père serrer dans ses bras les enfants prodigues. Et la divinité partage cette étreinte de rédemption. Aucun membre de la Trinité n'est froid ou insensible à l'idée de supporter le prix du rachat de prodigues comme vous et moi.